Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Sini.
RTL Bonsoir.
RTL Bonsoir, la deuxième heure. Si vous nous rejoignez, toute la bande est autour de la table. Cyprien, Isa, et on accueille maintenant notre grande invitée ce soir. C'est une double championne de France. Écoutez bien parce qu'elle va vous donner une sacrée leçon de vie. Marathonienne le jour, aide-soignante la nuit. Elle a vaincu un cancer du sein très agressif sans jamais s'arrêter de courir. Bonsoir Anaïs Kemner.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio. Vous racontez votre histoire très inspirante dans un livre. Tout ce que je voulais, c'était courir chez Flammarion. Et vous parlez, et c'est important pour vous, librement de la maladie. C'est une maladie qui nous concerne tous, de près ou de loin. On peut peut-être rappeler les chiffres, Isabelle, parce qu'ils sont quand même édifiants dans notre pays.
Oui, on estime à plus de 430 000 le nombre de cancers détectés en 2023 en France. Et c'est considérable. Pour vous donner un ordre d'idée, ça veut dire que chaque heure, dans notre pays, 50 cancers sont détectés.
Donc il y a sans doute des malades, des proches de malades qui nous écoutent et c'est pour ça que votre témoignage il est nécessaire ce soir, parce qu'il est finalement assez rare. Beaucoup de nos auditeurs vont sans doute se retrouver dans vos mots et vous raconter, par exemple, votre livre commence ainsi, l'annonce de la maladie, vous êtes allé courir le matin, mais pas franchement avec l'esprit tranquille, parce qu'il y a les résultats qui arrivent, et vous racontez que quand le verdict tombe, vous êtes là sans y être. Tout est flou en fait, c'est ça ?
C'est totalement ça, ouais. En fait, j'ai continué à courir l'annonce de mes traitements et après, parce que justement, c'était mon moyen en fait, de me sentir vivante et de penser à autre chose que la maladie.
Et vous dites que quand on vous l'annonce, le plus dur, c'est presque de l'annoncer à vos proches aussi.
Complètement, ouais. En fait, je pense que j'ai voulu protéger mes proches, ma famille, mon père. Et c'est vrai que c'était difficile à annoncer. Autant moi, je commençais à encaisser l'annonce, mais de le dire aux autres, je pense que de mettre un mot dessus, j'ai un cancer, c'était difficile à dire.
C'est quoi, vous avez peur de leur réaction ? Vous avez peur de leur faire de la peine ? Enfin, je sais pas.
De la peine, ouais. J'avais peur de leur faire du mal et qu'ils soient malheureux pour moi, qu'ils se plient un peu en quatre, alors que je voulais continuer à vivre normalement.
Et c'est vrai que quand on reçoit cette uppercut-là, les mots, tous les malades le racontent, on comprend pas ce qui nous arrive, quoi.
Bah, c'est ça. C'est, en plus,
on entend le médecin, mais on comprend pas vraiment ce qu'il dit.
Ouais, quoi. Voilà. Puis moi, je travaillais déjà dans le médical, je suis aide-soignante, donc j'avais pas du tout cette impression d'être malade, ou en tout cas qu'il y avait une maladie qui grandissait à l'intérieur de moi. J'ai toujours été sportive, j'ai une bonne hygiène de vie.
Vous étiez jeune.
Ouais, très jeune, à 24 ans. Ouais. Pas d'antécédent connu, donc pour moi, c'était impossible d'avoir un cancer.
D'ailleurs, plusieurs médecins avant vous disent non, mais cette boule-là, vous avez 24 ans, vous êtes en pleine forme, vous courez, tout va bien.
C'est ça. J'ai vu trois médecins avant d'avoir le diagnostic final.
Et donc cette maladie, elle arrive alors que vous préparez des championnats de France, que vous améliorez vos chronos. D'ailleurs, vous demandez à votre médecin si vous pouvez attendre un peu pour la chimio et sa réponse, elle vous interpelle. Vous en souvenez ?
Oui, je m'en rappelle très bien. En fait, c'est vrai, quand il m'a annoncé un petit peu le marathon des traitements, c'était une autre préparation. Il m'a dit, on va avoir de la chimiothérapie, et ensuite radiothérapie, certainement opération. Et je lui ai dit, ok, mais c'est bien, mais si on commence maintenant, moi j'ai un championnat de France dans 3 mois, donc je fais comment ? Et là, c'est vrai que rapidement, il m'a répondu, oui, vous pourrez être championne de France dans 3 mois, mais en cercueil.
Pour tous ceux qui nous écoutent, parler de chimio, ça peut paraître très abstrait. Vous qui êtes habituée, parce que vous êtes sportive, d'être à l'écoute de votre corps, là, vous racontez très concrètement, et c'est vraiment glaçant, les effets d'une chimio. Vous enchaînez les traitements, ça se passe par séance de 2 jours, lundi, mardi. Vous êtes à plat, total, épuisé, quoi.
C'est fatigant, c'est sûr que c'est fatigant, mais après je pense que le côté sportif, déjà ça m'a aidé mentalement à toujours essayer de me dépasser, à me relever tous les matins, de me dire ok, chaque jour était un nouveau défi finalement. Et puis il y a le côté soignant aussi, vu que je travaillais à l'hôpital, où je me disais quand même ok, je suis prise en charge, j'ai un cancer, mais des patients que je vois dans un bien pire état que le mien, il y en a beaucoup, donc je pouvais pas, enfin ça me permettait moi-même de relativiser et de me dire j'ai un cancer, mais je suis là, je vais continuer à vivre normalement.
Et pourtant, vous avez refusé d'arrêter de courir entre 2 séances. Comme ça, vous allez faire des bornes à vélo, un 10 km à pied. Au début du traitement, vous vous inscrivez à un 8 km. Et c'est la course peut-être la plus difficile de votre vie, d'ailleurs, ce 8 km.
C'est ça. Donc, je me suis inscrite. À la base, c'était un 16 km que je devais faire.
Votre papa, il n'a pas voulu le 16.
C'est ça. Il n'a pas voulu le 16.
Vous avez bien fait de l'écouter.
Oui, je n'ai pas vraiment eu le choix. Donc, je n'ai pas fait le 16 km. Je suis passée sur la course en dessous, donc le 8 km. Et finalement, c'est vrai qu'il a eu raison parce que c'était la première course que j'ai faite une semaine après ma première chimio. Et effectivement, c'était quand même assez compliqué à l'arrivée. J'en ai vraiment bavé. C'était une compétition qui était très difficile où je me retrouve en concurrence avec des filles que je connaissais pas forcément, alors que moi j'avais déjà un niveau national. Et c'est vrai que c'était, l'arrivée, c'était vraiment compliqué, quoi. Je me suis retrouvée au sol à plus savoir trop où j'étais, avoir un peu des étoiles. Et mon père, enfin, était très, très en colère en me disant, mais maintenant, faut arrêter ça, quoi.
Ouais. Oui, parce que vous racontez quand même les effets secondaires du traitement. C'est terrible en général et c'est complètement impossible normalement quand on fait du sport.
Normalement.
C'est pas impossible parce que.
C'est très dur.
C'est très dur, bien sûr, mais moi j'avais déjà énormément de sport, enfin je faisais déjà énormément de sport auparavant, donc c'est pas comme si je partais de zéro. J'avais pas cette impression de commencer un sport ou de commencer la course à pied. Ça faisait partie de mon quotidien.
Et à vos proches, à vos médecins qui sont pas contents de vous voir courir, vous dites ça va aller?
Ouais, bah oui, moi j'essayais toujours de positiver en me disant j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, je peux continuer à courir.
C'est ce qui force le respect dans votre parcours parce que vous avez une capacité à repartir de l'avant qui est assez bluffante. Un an seulement après le début de la chimio, les premières séances, vous êtes au départ des championnats de France. On est en 2016 et au départ, puisque vous reprenez en quelque sorte, c'est la première grande compétition, vous ne savez même pas si vous allez les finir ces championnats de France.
Si, je savais que j'allais les terminer parce que je m'étais bien entraînée pour, mais je savais pas comment, je savais pas avec quel chrono, je savais pas à quelle place je terminerais. Donc ça, c'était un peu le point d'interrogation. Mais c'est vrai que j'ai pris ma revanche sur l'année d'avant où j'ai pas pu faire ce championnat de France. Donc cette année-là, c'est vrai qu'en 2016, j'ai participé, j'ai tout donné.
Bah oui, quelques semaines après la fin de la chimio, vous arrivez au bout, vous battez votre corps. Et vous êtes championne de France. J'imagine que le moment où vous passez la ligne,
ouais, c'était plusieurs
c'est fou,
après.
Quoi. C'est irréel, non?
C'était assez irréel. Après, j'avais pas dans l'idée d'être championne de France ce jour-là. Ça s'est fait. C'était un jour. C'était mon jour, certainement. Et en fait, en courant, je vois que je commence à doubler certaines filles. Et je me dis, bon, ok, j'étais pas trop mal classée. Peut-être dans les 4-5. Je double une fille, une deuxième fille, une autre fille qui abandonne. Je me dis, bon, là, je suis quand même pas très loin du podium. Et c'est vrai qu'à 2 km de l'arrivée, je vois la moto sur le côté. Et je sais que la moto, c'est la moto suiveuse qui suit la première femme. Je me dis, maintenant, je tente tout, quoi. Donc j'ai tout donné et j'ai terminé première.
Ça, c'est la revanche. Vous retournez voir votre médecin, le docteur Denarno, à l'hôpital de Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Et la suite, c'est lui qui le raconte dans un documentaire. Écoutez-le.
Il me dit, il faut que je vous montre quelque chose. Et donc je dis, ça y est, elle me montre qu'elle a une récidive. Et là, effectivement, elle se déshabille et elle avait sa médaille de championne de France. Quelqu'un aurait fait un traitement différent à Anaïs, peut-être plus classique que ce que j'ai fait, peut-être en tapant plus fort, peut-être en l'empêchant de reprendre la compétition, comme ça. Je pense qu'elle ne serait pas guérie. Je dis qu'à partir du moment où quelqu'un se bat contre la maladie, mais se bat pour autre chose que la maladie, comme elle pour le sport, les chances de guérison étonnent toujours, hein, c'est très clair.
Il a raison, votre docteur.
Il a raison.
On vous sent ému à l'entendre.
Ouais. Je suis ému parce que ça a été quelqu'un qui a changé ma vie et surtout les périodes de la maladie qui étaient compliquées. Lui, il a réussi à nous faire sortir, mon père et moi, de son cabinet avec le sourire, alors que c'était pas des moments faciles.
Cette victoire, vous vouliez la partager justement avec tous les soignants que vous avez rencontrés?
Surtout avec lui, parce que je considère que lui, comme mon père, ce sont un peu mes sauveurs. Donc c'était important d'aller lui montrer la médaille, parce que c'est vrai que pendant les traitements, il faisait très attention, par exemple à la radiothérapie, que les points soient bien faits, que je n'ai pas les poumons brûlés, parce que ça irradiait quand même une zone qui est derrière le sein, donc j'ai les poumons. Et en fait, il faisait très attention à ça. Il me disait souvent, si tu sens que tu es soufflé à l'entraînement, si tu sens quelque chose d'inhabituel, tu me le dis tout de suite.
Il s'est vraiment mis dans votre peau, ce médecin. Hein.
Je pense,
incroyable.
Ouais.
Et ce championnat de France dont on parlait, c'est aussi une course particulière parce qu'il arrive après une mastectomie. Et là aussi, vous en parlez assez librement, alors que souvent, c'est un petit peu tabou. Au début, on n'y pense pas. Mais vous aviez peur pour votre équilibre pendant la course.
Oui, en fait, ça m'a créé une certaine asymétrie. Forcément, j'avais un seul sein. Et je sais qu'une asymétrie sur le corps, ça peut créer des déséquilibres et ça peut générer des blessures.
Ouais.
Donc, je faisais pas mal attention à ça. Et c'est vrai que sur le long, quand je commence à courir et que je sentais une petite blessure à droite ou à gauche, ça m'est venu assez rapidement en me disant, en fait, c'est peut-être un déséquilibre, effectivement, à cause de ça.
La reconstruction de vos seins, vous le racontez, ça a été un calvaire absolu. Vous avez été un peu chat noir sur ce coup-là.
Oui.
Vous avez fait plusieurs rejets, des opérations. Puis un jour, vous avez dit stop. En fait, j'ai pas besoin de reconstruction. C'était un acte de rébellion, ça un peu quand même, face aux injonctions à la féminité, la nécessité pour une femme d'avoir deux seins.
En fait, au départ, j'ai eu l'impression de pas avoir été réellement écoutée. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma première mastectomie, j'avais demandé de suite à mon médecin, est-ce qu'on peut m'enlever le deuxième? Parce que j'avais peur que ça revienne, parce que j'étais jeune et que je me disais, en fait, si c'est venu à cet âge-là, ça peut
aussi revenir. Il y avait un facteur héréditaire chez vous, en
fait. Ça, on l'a su après. Donc, pour lui, il pouvait pas m'enlever ce second sein parce qu'il n'avait pas de, il était sain.
Et on peut pas le faire, ça.
Non.
On n'a pas le droit.
Non, non, on peut pas le faire.
Même si c'est demandé par la patiente.
Faut que le facteur héréditaire soit prouvé.
Voilà, c'est ça. Dès qu'on a reçu les tests génétiques et que ça a été approuvé, à ce moment-là, oui, je pouvais faire enlever le second sein. Donc c'est ce qu'on a fait un an et demi après, puisqu'il a fallu attendre que la peau cicatrise correctement, la radiothérapie, enfin voilà, attendre un petit peu tous les traitements. Et un an et demi après, j'ai fait enlever le second sein avec la reconstruction immédiate de l'autre sein qui avait été amputé. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué au départ parce que le médecin voulait pas vraiment m'entendre. C'était plutôt, bah, t'as 25 ans, c'est bien, 25 ans, mais tu devrais avoir deux seins. Enfin, si tu as un copain aujourd'hui, c'est ok, mais peut-être que dans 10 ans, ce sera différent. Et si tu rencontres quelqu'un et que tu n'as qu'un sein ou tu n'en as pas. Donc, j'avais un peu l'impression d'être une femme parce que j'avais deux seins.
Anaïs Kemner, vous restez avec nous. La course vous a peut-être sans doute sauvé. Elle vous habite en tout cas. Vous, la marathonienne, vous allez nous raconter pourquoi elle vous habite. Juste après ça, quand j'aurai chassé mon chat dans la gorge, votre témoignage, il est précieux ce soir. Vous êtes notre grande invitée pour votre livre. Tout ce que je voulais, c'était courir. On se retrouve dans une seconde.
Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Sini.
RTL, bonsoir.
RTL, bonsoir.
Julien Cellier,
Isabelle Choquet et Cyprien Sini.
Allez, RTL, bonsoir, la deuxième heure avec une grande invitée très inspirante, on l'a compris ce soir, double championne de France de marathon, Anaïs Kemner est avec nous, elle a combattu un cancer sans jamais s'arrêter de courir. Anaïs, vous le racontez dans Tout ce que je voulais, c'était courir, votre livre aux éditions Flammarion, et le marathon, bah, c'est un coup de foudre. C'est vrai que c'est une grande mode du running, je suis sûr qu'il y a plein de runners, comme on dit, qui nous écoutent ce soir. Il y a aussi plein d'auditeurs qui détestent courir et qui se demandent mais pourquoi ils s'infligent ça.
Ah, moi, je me demande.
Bah voilà, votre premier marathon, c'est souvent comme ça, c'est un pari entre potes. Vous faites déjà de l'athlé, mais vous faites un temps de fou, quoi.
Ah oui.
Attendez.
3h11,
alors que vous, le premier marathon, l'unique,
il y en a eu qu'un. 4h22, voilà. 4h20. Bon, 3... Non, mais j'ai eu un problème, j'ai pris le mur, comme on dit.
Bah oui, mais vous n'avez pas pris le mur.
Ah 3h11 pour le premier, c'est
3h11 minutes, c'est fou.
Bah ouais, c'est vrai que c'était une découverte. C'était un peu un pari avec les copains. On s'est dit, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On voulait un peu se challenger dans l'ancien club où j'étais. Et c'est vrai que ça nous est un peu apparu comme ça en se disant, bon, bah ok, on va s'inscrire à un marathon. Et du coup, c'est vrai que ce premier marathon à Rotterdam, c'était une sacrée expérience.
Mais vous étiez entraîné avant ou pas ?
Oui, je m'étais entraîné. Bah, en fait, j'avais toujours fait un peu de 10 km, semi-marathon et tout ça. Donc on avait un petit peu augmenté les kilomètres.
Qu'est-ce qu'on appelle le mur ? Parce qu'on parlait en Trinité.
Le mur, c'est quand ça arrive entre le 28e et le 32e kilomètre, souvent, où d'un coup, on se sent bien et... 3 minutes après, pam, un espèce de blackout, on peut plus courir.
Et donc, quand vous dites j'ai pris le mur, c'est...
Ben, c'est-à-dire qu'un coup, 32e kilomètre, je me suis retrouvé, je ne pouvais plus courir. Physiquement, je ne pouvais plus courir.
Effondré, quoi.
Et j'ai marché, je me suis mis à marcher, puis après, je savais pas trop ce que je faisais là, puis après, j'ai un espèce de blackout jusqu'au 38e kilomètre.
Vous vous souvenez pas jusqu'au 38e?
Pas trop, non. J'ai des bribes.
Et après, vous avez...
Et au 38e, d'un coup, je me vois en train de marcher dans le bois de Boulogne, je me dis qu'est-ce que je fous là? Et je me suis mis à courir. Et j'ai couru jusqu'au 42e, à la fin, là. Mais comme si j'avais des chaussures de ski au pied, oui.
Ça vous est déjà arrivé ou pas un coup de mou dans une course ou alors quand ça entraîne, on n'en a pas?
Ah si, ça m'est déjà arrivé. Bah, déjà arrivé. Souvent parce que je partais un peu trop vite et que du coup, forcément.
Oui, visiblement,
le mur...
c'est votre péché mignon.
Ouais, ça m'arrive souvent. Ça m'arrive un peu trop souvent, malheureusement. Je suis un peu toujours dans l'euphorie et c'est vrai que les 10 premiers, 20 premiers, je me sens très très bien. Jusqu'à 30, ça va. 32, 34. Et généralement, moi, c'est plutôt vers le 35 où là, je me dis waouh. Là, il m'en reste 7. Ça va être long.
Et là, c'est terrible. Parce que vers le 35, 36, là, vous êtes au bout du roule. Et les gens, ils vous disent allez, plus que 7 km, plus que 6 km.
Encore
ouais, en fait, t'es là, t'as envie de leur dire vas-y, fais-les. Hein.
Bon, alors, les 3h11, c'était il y a longtemps. Votre record, désormais, c'est 2h28 minutes. Ouais. Vous avez acquis, enfin, le statut de sportif de haut niveau avec un emploi du temps adapté. Mais pendant des années, vous étiez aide-soignante de nuit. Ça se passait comment? C'était la vie à l'envers pour s'entraîner pour...
Ben, bizarrement, non, parce que j'ai toujours dit que c'était pas une contrainte pour moi et que c'était un plaisir d'aller courir. Donc, c'était un petit peu mon moment d'évasion. Et en fait, ça fait 6 ans maintenant que je travaille de nuit, où je fais, avant, je faisais 19h, 7h du matin, et maintenant, je fais 21h, 7h du matin. Et...
Donc, vous rentrez, vous faites dodo, et après, vous allez courir.
Ouais, c'est ça. Même des fois, je vais au travail en courant, donc je rentre en courant chez moi. Et je prends ma douche, je fais ma vie, je me réveille vers 14h. Et entre 15 et 17 heures, je vais courir et après je retourne au travail.
Enfin... Bon, avant, vous étiez l'aide-soignante qui courait très longtemps. Maintenant, vous êtes aux yeux de tous une championne reconnue. Les minima pour les JO, vraiment, ils étaient tout proches. À 2 minutes seulement, il fallait faire 2h26. Alors peut-être que 2 minutes, c'est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup.
C'était juste pour Paris. C'est quoi l'objectif? C'est Los Angeles 2028 maintenant?
Ouais. Bah, je garde cet objectif en tête. Après, je sais que ça va être difficile. Moi, je vais aller chercher les minima. C'est mon objectif à court terme. Après, de là à faire la sélection et d'être prise, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais avoir ce statut olympique de me dire, voilà, j'ai réalisé les minima.
Les minima, ouais.
À la fin de votre livre, vous dites que vous n'arrivez pas à vous projeter. Vous dites en 2028, je peux très bien être au jeu, comme je peux être en train de combattre une récidive. Vous y pensez, ça, c'est un coup près quand même. On n'arrive pas franchement à faire abstraction de ça.
Ben, en fait, j'ai plein de projets. Je pense à plein de choses. Je me dis, j'aimerais faire ci ou ça, mais c'est vrai que généralement, j'ai quand même les pieds sur terre et je me dis que je sais où j'étais il y a 5 ans. Je sais pas où je serai dans 5 ans.
Vous qui êtes aide-soignante, visiblement, c'est à l'hôpital que vous avez compris à quel point c'était important de témoigner, comme vous le faites ce soir. C'est un jour où vous avez rencontré une patiente, alors que vous étiez en train de travailler, qui, bah, comme vous, était victime d'un cancer du sein. Vous êtes mis à discuter avec elle, et c'est là que vous avez compris qu'il fallait briser les tabous, en quelque sorte.
C'est ça. En fait, moi, j'avais commencé à en parler sur les réseaux sociaux, parce que j'ai déjà senti que, à mon âge, on n'en parlait pas. J'avais 24 ans, pas d'antécédents, je travaillais à l'hôpital, j'avais une hygiène de vie nickel.
Ouais.
Enfin, j'en entendais pas du tout parler. Et alors, quand je disais, en plus de ça, que je voulais faire du sport, on me regardait tous avec des yeux. C'était impossible, quoi. Et c'est vrai que, déjà, les réseaux sociaux m'ont permis de pouvoir partager, d'avoir énormément de retours bienveillants. Donc, moi, ça m'a donné un élan supplémentaire pour continuer à courir et continuer à partager mes traitements et tout ce qui se passait. Et c'est vrai qu'en reprenant le travail à l'hôpital, donc en mi-temps thérapeutique, j'ai repris pendant un an et demi en mi-temps thérapeutique, quand j'ai rencontré Carolina, en fait, elle était...
Cette patiente,
qui était en plein traitement. J'ai fini mon service à 14h30 et je suis allée la voir, je suis restée une heure avec elle en discutant, je voulais que ça lui donne de l'espoir aussi, en lui disant, moi, il y a un an et demi auparavant, j'étais comme toi. Et du coup, je lui ai un peu parlé de l'association dont je faisais partie. Et je lui ai dit, si un jour ça t'intéresse, si tu veux sortir, si tu veux faire une activité adaptée, physique, peu importe, nous on est là, on peut t'accompagner. Moi, ça m'a beaucoup aidée. Et aujourd'hui, je pense que ça peut aider d'autres personnes.
Mais c'est vrai que vous êtes un espoir extraordinaire. On a l'impression que, d'ailleurs, la parole se libère. Il y a l'influenceuse Caroline Receveur, la comédienne Clémentine Sellarier qui était venue ici dans le studio nous en parler. Il y a même Kate Middleton aussi.
It has been an incredibly tough couple. Des tests ont révélé la présence d'un cancer. Mon équipe médicale a pris la décision de me mettre sous chimiothérapie préventive. J'ai donc commencé le traitement et c'était un grand choc.
Vous êtes touchée par ces témoignages ? C'est important que les gens comme ça libèrent la parole ?
Moi, je pense que c'est important d'en parler, ouais, parce que c'est trop tabou et malheureusement, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup trop de personnes qui sont touchées par le cancer. Et c'est important de pouvoir en parler, ça n'arrive pas qu'aux autres.
Et puis il y a des combats à mener encore, et vous nous en parlez à la fin de votre livre, et franchement c'est assez choquant, notamment le regard sur la maladie. Vous racontez qu'avec votre copain de l'époque, on vous a refusé un prêt immobilier, qu'on a vu vos antécédents médicaux.
Oui.
Ça arrive encore, ça.
Ouais, ça arrive encore. En fait, maintenant, il y a des lois qui ont changé.
Donc, il y a le droit à l'oubli,
voilà, qui a été réduit. Et heureusement, parce qu'en fait, quand je suis tombée malade, on me disait pendant 10 ans, on ne pourra pas vous faire de crédit. Donc j'étais là, ok. Donc en fait, c'est la double peine, j'ai 24 ans, mais je ne peux pas acheter pendant 10 ans, je ne peux rien faire. Je suis un peu punie jusqu'à mes 35 ans.
Et ça a changé.
Et ça a changé.
Il y a des choses qui bougent.
Oui, oui.
Anaïs Kemner, vous la marathonienne qui force le respect. Vous restez avec nous, vous êtes notre invitée pour votre livre. Tout ce que je voulais, c'était courir. Vous ne bougez pas. Dans la suite de l'émission, on va écouter de la musique. Et on va passer en cuisine. La musique, c'est votre playlist. Jean-Baptiste Jammes, salut.
Salut à tous.
On écoute qui, on écoute quoi ce soir?
La planète musique va trembler cette nuit avec la sortie de l'album de Taylor Swift.
Oh là là, Swifties en folie.
Comme je sais que vous allez nous parler de Frankie Vincent, je me disais, la planète musique va s'arrêter parce que Frankie
Vincent... Il y a une vanne en fait,
On va passer de Frankie Vincent à Taylor Swift. Voilà, c'est ce qui va se passer dans 5 minutes.
C'est éclectique, c'est RTL, bonsoir.
Il y a aussi la cuisine, la guinguette d'Angèle Ferromac. Salut Angèle.
Bonsoir tout le monde.
Qu'est-ce qu'on déguste ce soir?
Ce soir, on déguste un dips de petits pois.
Ah, c'est pour l'apéro.
Avec de la menthe. C'est pour l'apéro.
C'est quoi un dips? Vous allez m'expliquer.
Tout de suite.
RTL, bonsoir.